Vous vous intéressez aux différents genres de rock? Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Bonjour Québec, c'est Jimmy Lajoie-Boucher pour CKIA 88.3 et voici votre bulletin d'information. La Ville de Québec poursuit ses achats de terrain dans le cadre de son plan de vision de l'habitation. Trois espaces seront acquis, le premier dans le quartier Saint-Sacrement sur le site de l'accueil Marguerite Bourgeois, un second sur l'avenue d'Estimonville et le troisième dans le quartier Saint-Sauveur, le tout pour une somme totalisant $7,450,000. Le plan de vision de l'habitation de la municipalité a pour but la création d'espaces de vie durables, incluant des logements, des services communautaires, accompagnés de milieux naturels. Québec espère ainsi devenir une référence avec son projet d'habitation d'ici 2030. Le collectif de Québec pour la paix et le groupe Québec-Palestine organisent une marche de soutien à la Palestine ce samedi le 9 décembre 2023. Le départ sera à 14h devant le centre Lucien Borne au 100 chemin Sainte-Foy à Québec. Des élus et des représentants de mouvements sociaux prendront la parole. Le thème de la manifestation sera la fin de l'occupation des territoires palestiniens et la principale revendication est un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Le Carnaval de Québec a dévoilé hier une partie de ses activités pour sa 70e saison. Le festival compte bien faire les choses en grand pour cette année symbolique. Après avoir annoncé en octobre dernier 100 activités sur 5 sites, les organisateurs de l'événement ont dévoilé d'autres activités prévues un peu partout dans la ville. L'organisation souhaite que chacun puisse célébrer dans leur quartier et dans les endroits qu'ils connaissent. Tous les arrondissements accueilleront donc au moins un événement. Pour rendre cette proximité possible, plus d'une quarantaine de restaurants seront mis à contribution en offrant divers plats pour les festivaliers. En plus, ceux qui le désirent pourront glisser en pleine rue sur la côte de la Pente-Douce en Crazy Carpet. L'organisme Crac Bitume est en campagne de sociofinancement pour son jardin collectif Les Ateliers à la Terre. Celui-ci s'est donné pour mission d'inclure, de nourrir et d'éduquer pour que les gens apprennent à jardiner ensemble tout en faisant du jardin un lieu où l'on peut discuter et expérimenter. Crac Bitume a besoin de $8,000 pour poursuivre sa mission, montant dont 63% est comblé. L'organisme se donne donc encore 15 jours pour atteindre son objectif. Pour les intéressés, consultez laruchequebec.com. Le mécontentement de la COP28 se fait ressentir à Québec aussi. La Coalition régionale Justice climatique et sociale accuse les gouvernements de faire de l'éco-blanchiment. L'organisme reproche au gouvernement de la province et du Canada d'avoir un piètre bilan, n'ayant pas réussi à tenir leurs engagements. La coalition qui tenait un rassemblement hier prévoit ainsi plusieurs événements pour 2024 et planifie déjà des actions pour le Jour de la Terre du 22 avril prochain. C'était votre bulletin d'information sur CKIA 88.3, rendu possible grâce à l'initiative de journalisme local.
Toute simplicité. Cela vaudra la peine de construire de manière encore plus réfléchie que je ne le fis, en s'interrogeant, par exemple, sur le type d'ancrage qu'une porte, une fenêtre, une cave ou un grenier ont dans la nature de l'homme. Il se pourrait bien alors que nous n'érigerions jamais la moindre superstructure sans tant que nous n'aurions pas trouvé une raison de le faire qui fût meilleure que même nos besoins temporels. Il y a un peu de la même convenance dans l'action de l'homme qui construit sa maison que dans celle d'un oiseau qui fabrique son nid. Qui sait si, comme partout chantent les oiseaux engagés dans ce genre de travaux, les hommes ne verraient pas leur faculté poétique universellement développée s'ils bâtissaient leur logis de leurs propres mains et se procuraient la nourriture pour eux-mêmes et leur famille avec ce qu'il convient de simplicité et d'honnêteté. Mais hélas, nous agissons comme les oiseaux vachés et les coucous qui pondent leurs œufs dans les nids d'autres oiseaux et néguaient l'âme d'aucun promeneur avec leur caquetage et piaillement cacophonique. Devrons-nous à jamais abandonner la joie de la construction au charpentier? Que pèse l'architecture dans le vécu de la masse des hommes? Au cours de toutes mes déambulations, je n'ai jamais rencontré d'homme occupé à une tâche aussi simple et naturelle que la construction de sa propre maison. Nous appartenons à la communauté. Le tailleur n'est pas seul à ne compter que sur 1/9 d'homme. Il en va de même du pasteur, du marchand et du fermier. Jusqu'où pousserons-nous cette division du travail? Et quel but sert-elle en dernière analyse? À ce compte-là, il ne fait aucun doute que quelqu'un d'autre pourrait penser à ma place. Mais il n'en est pas autant désirable qu'il le fasse au point que je cesse moi-même de penser pour moi-même.
Je veux chemin nouveau à défricher. Je veux des lunes d'été à raconter. Je veux en nous-mêmes de nouveaux sols à irriguer. J'ai devant moi la vie. J'ai devant moi la vie, j'ai devant moi la vie.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, on aura un invité avec nous, Jean Désy, qui se dit nomade dans l'âme. C'est un médecin, aventurier, amant du Nord, poète. En tout cas, on va jaser ensemble de son dernier livre et puis des choses qui l'animent ces temps-ci. Mais avant ça, je vais faire ma petite revue de presse habituelle, mes lectures, ce que j'ai vu. Il y a le dernier Philosophie Magazine qui vient d'arriver en kiosque, là, pour ceux que ça intéresse, qui est un numéro qui me semble intéressant. Il est arrivé hier, donc je peux pas vous en parler beaucoup, mais le titre de la revue, le thème de la revue, c'est « La vie a-t-elle un sens? » Ça devrait être intéressant. J'en avais parlé un peu là, la semaine dernière quand on avait fait un petit compte-rendu sur notre événement sur les cohabitats. Un livre de Gabrielle Anctil, c'est une journaliste au Devoir, Gabrielle. Et son livre, c'est « Loger à la même adresse, conjuguer nos forces face à la crise du logement, l'isolement et la pauvreté ». C'est en lien avec, comme je disais, l'événement sur les cohabitats. Et il faut réapprendre à vivre en groupe, réapprendre à former des communautés, à s'entraider, à se regrouper. Puis elle a regardé ça, elle a étudié différentes communautés d'intention. C'est un bon petit livre que je vous recommande. Alors, c'est aux éditions XYZ, c'est Gabrielle Anctil, Loger à la même adresse. Ah oui, il y a une BD que je suis en train de lire ces temps-ci. C'est une BD quand même assez volumineuse qui parle de l'énergie. C'est ce que j'ai lu de plus intéressant sur l'énergie. Il y a des informations là-dedans. Ça nous fait réaliser l'ampleur énorme de la tâche qu'on a de sortir des énergies fossiles. Et le titre de la BD, c'est « Le monde sans fin ». Et l'auteur, celui qui a dessiné cette BD-là, s'appelle Jean-Marc Jancovici. Et c'est tellement bien, c'est des images. Alors, ça nous aide à comprendre l'immensité de qu'est-ce que c'est que ça représente les énergies fossiles, le pétrole. Il donnait seulement qu'un exemple, des dizaines d'exemples. Quand on utilise Internet, on ne réalise pas, mais ça consomme une quantité astronomique d'énergie. L'Internet du monde consomme autant d'énergie que l'entièreté de toute la flotte de camions du monde. Et quand on sait que l'énergie actuellement dans le monde est produite à 25 % 40 % je pense, 25 ou 40 % par du charbon, ça veut dire que quand on utilise Internet, quand on envoie un courriel, on brûle du charbon. Alors, juste ça, cette statistique-là est énorme. Et là, parlons du pétrole. Il nous explique, il y a une image qui explique comment notre monde est basé sur le pétrole. C'est que le pétrole, c'est une énergie. Une énergie, on peut mettre l'image d'un esclave. Et chacun de nous, on a à notre disposition un genre de dizaine d'esclaves dépendant de notre consommation d'énergie, de notre mode de vie. Et ce qui fait le confort de nos sociétés, le mode de vie est permis par ces esclaves-là qu'on doit remplacer soit par des énergies renouvelables ou qu'on doit se départir, moins consommer, avoir moins d'esclaves. Et ça aussi, ça fait réfléchir. En tout cas, c'est une BD vraiment intéressante. Le titre, là, c'est « Le monde sans fin », que je vous recommande. Maintenant, dans les journaux, j'ai un petit article du Journal de Québec. C'est rare que je vous parle du Journal de Québec, mais j'aime beaucoup les chroniques de Richard Béliveau dans le Journal de Québec. Il y a souvent des choses intéressantes sur la santé. Puis ça, c'est un exemple, quand on parle de simplicité volontaire, qu'il y a comme un paradoxe. On réduit pour améliorer. Et il nous parle de 10 années de vie supplémentaire en mangeant mieux. Puis, on le sait, c'est qu'il y a trois règles. Un apport élevé en aliments d'origine végétale. Si on réduit la viande, D'abord, ça coûte moins cher. Puis deux, on a un apport sur notre espérance de vie. Un apport modéré en protéines animales, puis un apport minimal en produits industriels ultra transformés. Alors, c'est pas compliqué. 3 règles, 10 ans de vie supplémentaire. Alors, c'était dans le Journal de Québec de lundi. Lundi de 4 décembre, 10 années de vie supplémentaire en mangeant mieux, Richard Béliveau. Maintenant, dans le devoir, là, il y a beaucoup de choses dans le devoir ces jours-ci. L'actualité est riche avec la COP, la COP 28. Et, on a un article de notre ami, notre invité Jean Désy, dans le devoir d'aujourd'hui, que je vous recommande, le devoir d'aujourd'hui, c'est un bon numéro. Et le titre de son article, c'est « Réapprendre à naviguer en symbiose avec les forces de la nature ». La nature ne fait pas que nous entourer, nous les humains. Nous faisons partie de la nature en tant que cellules, en tant qu'êtres pensants, mais aussi en tant que participants à la course d'une planète située au sein d'un cosmos qui nous entoure, en nous ayant créés comme il continue de le faire à chaque seconde. C'est un bel article, c'est un beau texte sur une réflexion sur finalement, en tant qu'être humain, où on est dans l'univers. Et c'est un article aussi, moi, je pense qu'on a besoin de ça, qui nous rappelle l'importance de l'humilité. Les humains, on a tendance à se voir plus grand qu'on est, mais en fait, on est tout simplement partie de la nature. On n'est pas au-dessus de la nature. On est la nature. Nous sommes la nature. On a un rôle à jouer dans la nature, mais on ne fait qu'être un élément de la nature, comme les oiseaux, comme les animaux. Alors, mais on va en discuter de toute façon. C'est comme une bonne intro de notre discussion qu'on va avoir tantôt. Ensuite, bien, comme je disais dans le devoir d'aujourd'hui, qui est un bon numéro, on a la chronique de José Blanchette, puis le titre de sa chronique, ça dit tout, c'est « La COP des pompistes, quand la science décroche ». Cette semaine, à la faveur d'une panne d'électricité de 24 heures, je suis retourné à l'âge des cavernes, une perspective déplaisante qui brandit le très folklorique président de l'affligeant spectacle annuel des COP, Sultan Ahmed Al-Jaber. Complètement mésadapté, du bout de chandelle et démuni du pixel, sans électricité, nous ne sommes pas grand-chose. Sans pétrole non plus, remarqué, puisque les énergies fossiles constituent 81 % de notre carburant et que les pays du G20 sont responsables de 80 % de la consommation mondiale d'énergie. Ne nous étonnons pas que le président de la COP28 sur le climat, les deux pieds englués dans l'or noir, puissent affirmer sans rougir, il n'existe pas de données scientifiques, pas de scénario qui indique que l'élimination progressive des combustibles fossiles permettra d'atteindre le seuil de 1,5 degrés Celsius. Le mot « progressive » est de trop pour viser cet objectif concédé, sans y croire à des endroits vulnérables lors de l'accord de Paris en 2015. Alors, je ne vous lirai pas l'article au complet. C'est un bon article. Un petit extrait encore de l'article. Elle dit, citant le philosophe Jean-Pierre Dupuis par rapport à la catastrophe environnementale, l'ingénieur français et philosophe Olivier Lefebvre rappelle, nous ne croyons pas ce que nous savons. On le sait, mais on ne le croit pas. On le sait qu'on est en difficulté, mais on ne le croit pas. En tout cas, très bon article de José Blanchet dans Le Devoir d'aujourd'hui. Il y avait aussi un article très intéressant dans Le Devoir de mardi dernier qui s'intitule « Déconstruire l'homo economicus ». En gros, c'est une campagne publicitaire en France qui a eu lieu avant le Vendredi fou qui déconseillait aux gens de consommer. Et ça a fait scandale en France. Il dit « Il est rare qu'une simple campagne publicitaire provoque une controverse au point de diviser l'exécutif du pays. C'est pourtant l'effet qu'a produit en France la campagne « Épargnons nos ressources » de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Dans 4 publicités, on voit quelqu'un qui se comporte au départ comme un vendeur, conseiller à des clients de s'abstenir d'acheter. En fait, cette personne est un dévendeur qui suggère plutôt que d'acquérir un produit neuf, de faire durer ceux que l'on possède déjà, de louer, de réparer ou de se tourner vers les objets d'occasion. Mais comme cette profession n'existe pas encore, les publicités suggèrent aux consommateurs de se poser les bonnes questions avant d'acheter. Là, ça a fait scandale en France, puis il y a eu des ministres du gouvernement qui se sont excusés que ça nuisait au commerce. En tout cas, il y a de la résistance. Hein? Nous, quand on parle de simplicité volontaire, on parle de réduire la surconsommation, réduire la consommation. C'est un article vraiment intéressant sur l'impact que ça veut dire de moins consommer quand on a des publicités là, à grande échelle qui parlent de réduire la consommation. Donc, c'est un article qui est vraiment intéressant que je vous recommande. Déconstruire l'homo economicus, c'était dans le Devoir de mardi 5 décembre. Bon, il y a des articles, évidemment, plusieurs articles sur la COP28, le président de la COP28 sur la défensive lors des négociations sur l'énergie fossile. Alors là, il a senti que la soupe était chaude et il a cru bon de se raviser. Le sultan Al-Jaber répond à ses détracteurs au cinquième jour de la conférence. C'était dans le Devoir de mardi aussi. Sur la défensive, le président émirati de la COP28 a réaffirmé lundi respecter la science climatique qui préconise une baisse abrupte des émissions de gaz à effet de serre. Mais le sort précis des énergies fossiles pour atteindre cet objectif était toujours loin d'être tranché. Nous sommes ici parce que nous croyons et nous respectons la science, a déclaré le sultan Al-Jaber dans une conférence de presse à laquelle il avait convoqué Jim Skia, le président du GIEC, le groupe d'experts climatique mandaté par l'ONU. En tout cas, un bon article sur la COP28, c'est dans le Devoir de mardi. Puis, finalement, dernier article, c'était dans le Devoir de samedi dimanche, finalement, c'est plusieurs articles, une série d'articles sur les migrants. Ça, c'est l'autre réalité là, des changements climatiques et autres difficultés. Il y a actuellement un mouvement de migration. Ben, on en entend parler à chaque jour. Et c'est un autre des gros défis qu'on a présentement. Là, il y a entre autres, en Amérique du Sud, il y a un déplacement vers les États-Unis de migrants. Là, c'est une marée, dans le fond. Et ben là, on parle du Honduras, qui est comme une première étape dans cette migration-là. Le Honduras face aux migrants, pour le meilleur ou pour le pire. C'était dans le Devoir de samedi dernier. Alors, c'est tout pour ma petite revue de presse. On prend une petite pause musicale, puis au retour, on va être avec Jean Désy.
Un jour dans un village, quelqu'un s'est mis à vendre du pain. On venait de sauver de l'ouvrage, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Puis quelques temps après, la farine livrée à la ville, et puis vendue à la livre, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le blé porté sur les marchés du monde, le prix qui monte sur le dos de la demande. Ils ont breveté les semences, on sait plus par quelle botte s'y prendre pour manger. Plus tard, suivant la ligne, on a mis l'eau dans les bouteilles, puis les rivières dans les turbines. Tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. On bouche les trous avec des clous, l'argent du pain, l'argent du beurre, puis la chèvre et puis le chou, puis tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le bénéfice a mis sa main dedans le doute, la terre qui tourne peut même plus joindre les deux bouts. À 4%, on te remercie, puis pour le reste, il y a, vas-y, faut payer. De l'indécence, si tu veux être, faut que tu dépenses. La bourse mouline sur la confiance, tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien? Un petit peu moins pour un petit peu plus cher, au profit de notre laisser-faire. Attendre jeudi pour le nécessaire, tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien? À la santé de la croissance, on laisse dormir l'amour dans les petites avances. L'incalculable a rendu l'homme, mais le silence, notre silence, puis la fin de notre silence, c'est combien? C'est combien?
Alors, c'était Fred Pellerin dans son, la pièce « C'est combien? » son album « Plus tard qu'on pense ». Alors, Jean, comment ça va?
Ça va bien.
Ça va bien. Puis, c'est ça, on va juste un peu faire une petite présentation. Tu as, dans tes dernières activités, en tout cas, tu as produit un livre, sur, un livre de poésie. Puis aussi, qu'est-ce que, en fin de compte, en gros, là, c'est quoi que tu fais ces temps-ci?
Ben, en fait, je suis en train de travailler sur un manuscrit qui va paraître en mars 2024 chez XYZ, qui s'appelle « Soigner la médecine », c'est une commande. Puis ce dernier livre de poésie qui s'appelle « Torrent d'âme pour la terre », ça, c'est en collaboration avec un photographe, Luc Desilets, qui est député aussi pour le Bloc québécois, que je connaissais pas, qui depuis 3 ans jouait avec mes poèmes que je mets sur Facebook. Puis c'est lui qui a créé le livre d'un point de vue visuel. C'est qu'on a trouvé un éditeur, là, Les Heures Bleues. Et moi, c'est tous des textes d'inspiration, ou en tout cas motivés par la préoccupation climatologique et environnementale. C'est que, mais c'est Luc qui est le co-auteur là, au point de vue visuel, c'est ses photos. C'est que le livre existe grâce à lui en pleine partie. Avant ça, quelques mois avant, j'avais publié un petit recueil de poésie chez XYZ qui s'appelait « Ma nature poétique », où c'est des textes, c'était très, très court. Encore là, c'était une commande de la part de Myriam, mon éditrice, pour, où je fais parler des animaux et des plantes. C'est vraiment très succinct, mais je trouvais... En tout cas, ces années-ci, c'est certain que mon écriture, pour répondre à ta question, en tout cas, est souvent préoccupée par ce qui se passe par l'environnement. Puis aussi, bien, comme j'ai la chance de vivre dans le bois, souvent, comme là, je me prépare à partir tantôt pour un camp littéraire de brousse avec une dizaine d'étudiants en médecine pour 48 heures là, dans le bois jusqu'à dimanche, bien, ça m'oblige, grâce à eux qui ont 20 ans, à réfléchir sur les enjeux climatologiques, environnementaux, puis qu'est-ce que vraiment la simplicité volontaire. Sans vouloir faire le grand philosophe, je m'aperçois, moi, que j'ai été dans les scouts toute ma vie. Ça fait 60 ans que je suis dans les scouts. Puis quand je fais un camp comme ça, je suis chef scout. Mais chef scout dans la mesure où je suis l'animateur. Et j'ai le sentiment profond à t'écouter qu'on vit ce qui est probablement le plus achevé, en fait, de simplicité volontaire. Parce qu'on est dans le bois, dans des cabanes, dans des tentes, sans électricité. Il n'y a pas de Wi-Fi, donc pas d'accès à Internet. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la musique, on soupe ensemble, puis on fait des excursions de 5, 6, 7 heures où on écrit des textes pendant la journée. Voici une activité de simplicité volontaire qui m'a été demandée par les étudiants. Et ça me rend fou de joie, parce que grâce à eux, je garde pied dans ce qui me semble essentiel à ce moment-ci, si on veut croire à la santé de notre monde.
Oui, c'est ça, t'es un personnage complexe, comme multiples facettes. T'es médecin pratiquant, d'ailleurs.
Oui, je pratique encore sur la Côte-Nord. Là, je retourne dans le Grand Nord au mois de mars à à Saluit parce qu'il y a une épidémie de tuberculose. Je gagne ma vie en allant faire du dépannage sur la côte nord, là. Mais mon activité principale, si je dois exister en ville, c'est d'être prof. J'ai des cours de littérature à la faculté de médecine, puis des cours de médecine. Mais la joie profonde que je ressens à ce moment-ci, plus que jamais, mais là, ça fait quand même 35 ans que j'enseigne, c'est d'être en contact avec des flots. J'appelle ça des flots, mais des gars et des filles qui ont 20 ans, puis 22 ans, puis 23 ans, puis 17 ans. C'est que ça, ça me rend profondément heureux parce que je les trouve beaux. Puis là, c'est un lieu commun. Moi, j'ai 69 ans. Ils sont l'avenir du monde. Et ils se préoccupent. Ils sont préoccupés profondément par les enjeux environnementaux. Les grandes questions qui nous occupent, comme est-ce qu'on est trop nombreux sur la planète, ça préoccupe beaucoup de mes étudiantes qui ont 20 ans. Est-ce qu'on va avoir des bébés, nous autres? Voici une question qui n'est pas banale et qui est nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Jusqu'à quel point on doit se permettre de ne pas avoir d'enfants pour diminuer la population? C'est un des questionnements qui nous occupe. Puis en même temps, c'est pas simple. Puis en même temps, dans le bois, en faisant un feu de camp, on chante là-dessus. Là, puis, les questions sont majeures. Est-ce qu'on est dans la tragédie totale pour l'instant? Non. Mais en tout cas, d'un point de vue littéraire, moi, avec... Puis là, ben, c'est souvent des étudiants en médecine qui me demandent d'aller dans le bois. Il y a toutes sortes d'étudiants aussi, des amis d'amis, mais ça me rend heureux.
Mais ça doit être thérapeutique aussi. La semaine dernière, parce que je parle toujours d'un philosophe là, quand j'ai pas d'invité, là, on choisit un philosophe. J'ai parlé de Descartes. Descartes, il est mal connu, il est connu. C'est pas un personnage cartésien. Même il a renié cet aspect-là du dualisme à la fin de sa vie. Et il était comme un peu aussi un genre de psychologue, on peut dire, de l'époque. Puis il y a une princesse, je me souviens plus du nom de la princesse qui lui écrivait parce qu'elle était déprimée, puis elle était anxieuse, puis ça. Puis Descartes, il dit, le secret, c'est va marcher en nature.
Bien, je trouve ça intéressant de citer Descartes parce qu'il faut faire attention aux lieux communs. Évidemment, il y a une partie importante des Lumières qui dépend de ces découvertes que Descartes a fait autour de l'esprit rationaliste. Le « je pense, donc je suis » est très Descartes, mais une fois ça dit, remarquable personnage, comme Pascal. Est-ce que toute la technoscience actuelle, avec ce qu'elle s'entraîne, et aussi des extraordinaires qualités, dépend seulement de Descartes? Non. Par ailleurs, moi je fais lire dans mon cours de littérature universelle le « Tao Te King » de Lao Tzu, et en citant Descartes, donc, avec le « je pense, donc je suis », ben, de façon taoïste, on doit ajouter « je pense, donc je ne suis pas ». Le rapport au non-être n'est pas moins important que le rapport à l'être. Ça, c'est fondamental, et c'est pour ça que je fais lire un texte asiat qui est fondateur du taoïsme et qui est si important dans le bouddhisme. L'Occident, ses initiés en particulier, a à peu près tout misé sur l'être. Je veux dire, la caricature, c'est « to be or not to be », être ou ne pas être, shakespearien. Mais en tout cas, grâce à Lao Tzu puis au Tao, je crois qu'il faut surtout ajouter « être » et « ne pas être ». Le rapport au non-être n'est pas moins important que le rapport à l'être. Ça, c'est quelque chose de gros. Et ça oblige à une réelle humilité. Au lieu d'avoir un ego qui gonfle, puis dans l'esprit bouddhiste aussi, il y a un combat contre l'ego qui est nécessaire. En fait, je vais vite, là, mais on sent qu'entre la préoccupation philosophique, entre la vie réelle au 21e siècle avec la technoscience puis l'intelligence artificielle qui prend autant de place, avec un moment de capitalisme outrancier majeur où là, tout ce qui est prévu, c'est d'augmenter la production, la philosophie, la spiritualité, qui propose des zones d'humilité est plus importante que jamais. Donc, l'état d'humilité fait partie de la psyché humaine, mais pour l'instant, à mon sens, c'est l'état d'orgueil qui domine beaucoup plus que d'autres choses. Mais c'est pour ça que c'est un livre qui, en général, jette mes étudiants à terre parce qu'ils n'ont jamais eu contact avec un livre sacré d'origine asiate. Mais en tout cas, j'arrête là, mais être et ne pas être est sûrement aussi important que être ou ne pas être.
Oh, ça fait du bien, ces textes, c'est les sagesses orientales, on appelle ça les sagesses orientales. Puis moi, j'aime beaucoup quand il parle aussi du non-agir.
Oui.
Ça aussi, c'est paradoxal. Paradoxal,
tu sais. Oui, bien, c'est ça. Puis après ça, ben, ça faut faire attention aux clichés. Le non-agir, ça ne veut pas dire de se laisser mourir en faisant rien, mais il y a une action qui est délétère. En fait, actuellement, j'ai envie d'être sévère aussi vis-à-vis d'un capitalisme mondial qui n'est pas seulement américain, là, qui est aussi chinois, là, qui est partout. Ben, cette espèce de virevolte majeure nuit à la santé de la planète et à notre santé. Et ça, cette espèce de virevolte excitée est d'origine psychique humaine. Ça fait partie de notre nature, ça, d'être dans l'action. Mais en même temps, il faut accepter que dans notre nature, avec la nature, avec les oiseaux, les rivières, il faut accepter d'être dans la non-action, d'être dans le non-agir. Et ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est complexe, mais il n'y a pas d'action saine s'il n'est pas accompagné de non-action. Mais c'est comme l'être et le non-être. On en parle pendant presque 4 heures, ça, de la valeur du non-être dans mon cours.
Mais c'est l'écoute aussi. Puis, j'avais vu une image, là. Il disait, tu as deux peintres, un oriental puis un occidental, qui vont peindre un paysage. Puis les deux peintres vont se rendre sous le dessus d'une montagne, puis regarder le paysage. Puis le peintre occidental va faire des croquis, puis va regarder, puis il va travailler, puis tout ça. L'oriental, il fait rien. Il est juste assis, puis il fait rien. Il fait rien. Puis là, ils font ça pendant plusieurs jours. Le dernier jour, l'oriental arrive, puis en une minute, il fait son... Parce qu'il a absorbé le paysage pendant 7 jours, puis là, il sort. Tandis que l'autre, ça va être plus rationnel. Il va avoir observé. C'est différent.
Je trouve ça vraiment intéressant. C'est certain que le rapport à la nature... Moi, ça fait 60 ans que je vais dans le bois grâce au scoutisme, puis... ce rapport intense de qualité qu'on peut avoir à la nature demande qu'on soit en état de non-action relative, donc en état de méditation. Mais comme moi, personnellement, quand je fais du canot sur une rivière, quand je descends une rivière en canot, il me semble être dans l'état le plus proche de ce que mes amis me racontent quand ils font du vipassana ou de la méditation. En fait, c'est des moments fascinants où moi, je me sens respirer. Mais évidemment, je suis en canot. Puis évidemment, il faut que je sois vigilant parce que la rivière pourrait me renverser. Ça, vous me suivez? C'est pas nécessairement un acte où on est assis à les jambes croisées pendant 8 heures. Mais évidemment, jamais de ma vie, je n'irai la valeur de tout ce qui est de l'ordre de la méditation au Québec. Dans la société actuelle, c'est fou comment les activités de méditation individuelle ou collective ont pris de l'ampleur. La massothérapie aussi, il y a un monde médiumnique qui est important parce que les humains de qualité sentent bien à quel point il faut qu'ils reprennent contact avec leur être intérieur qui, lui, demande de s'arrêter tout en s'arrêtant pas. En fait, je suis persuadé de ça, moi. Pour faire du bon canot sur une rivière, il faut devenir la rivière. Il faut accepter que la rivière devienne nous. Nous sommes dans la rivière. Nous ne sommes pas supérieurs à la rivière, puis c'est pas moi qui va diriger la rivière. Il faut que je me fonde à la rivière au moment où elle est. Descendre une rivière au mois d'avril, quand la glace vient de partir, c'est pas pareil comme la descendre maintenant, là. C'est encore descendable, les rivières s'achèvent, là, ces jours-ci. Mais je suis persuadé de ça. Donc, puis si on veut aimer les oiseaux, il faut accepter de devenir un oiseau. C'est certain que grâce à la poésie, je peux parler comme ça, là, ça semble moins délirant ou moins pathologique, mais si on aime et on devient une mésange, ben, il y a plus de chances que des mésanges survivent. Mais si on se sert des mésanges, si on oublie la présence des mésanges, il ne faut pas surprendre qu'il y a 10 milliards de moins d'oiseaux en Amérique depuis 10 ans.
Ben c'est ça, là. C'est aimer la nature, c'est aimer la vie.
L'aimer, mais pas de l'extérieur. L'aimer sachant qu'on y participe et qu'on est nous-mêmes partie et qu'on n'est pas supérieur à la nature. On est des cellules dans cette nature-là et que finalement, notre rapport aux oiseaux, aux insectes, aux mouches noires, au ciel, aux nuages, même aux astres, est intime. Tout à coup, penser comme ça... Ben, j'aime beaucoup la poésie, moi, puis les poètes, parce qu'en général, les artistes ont un rapport plus proche de ça que... les ingénieurs, mais là, j'arrête là. Il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de scientifiques qui sont remarquablement sensibles à l'environnement.
Puis, les Indiens, pour survivre, ils devaient faire ça, eux autres. Ils n'avaient pas le choix d'être...
Totalement.
D'être, comme tu dis, identifié à la nature, puis c'est comme ça, entre autres, pour les chasseurs.
Tous les chasseurs que je connais, puis dans le monde autochtone de Milan, si tu vas à l'Orignal parce que tu as deux femmes puis quatre enfants dans ta tente, puis tu es en 1282 sur le bord de la Montmorency, si tu veux attraper ton Orignal au mois de mars, deviens l'Orignal. Pressant l'Orignal. Sans l'Orignal. Puis c'est seulement comme ça que tu vas réussir à le trouver. C'est même pas caricatural, là. Le rapport intense à la vie naturelle, de la nature, demande qu'on s'y fonde. Et ça va loin.
Oui, eux autres, c'était pour la survie, il faut dire aussi. Il n'y avait pas le choix, là.
Il n'y avait pas le choix. Mais nous aussi, je pense qu'on devrait considérer qu'on n'a pas le choix à ce moment-ci. On semble avoir le choix. Tout semble parfait. Parce que, pour l'instant, comme José Blanchet disait qu'il n'y avait pas eu d'électricité pendant 24 heures, notre société fait en sorte que quand on n'a pas d'électricité pendant 24 heures, aïe aïe. Quand tout à coup le web plante pendant 24 heures, aïe aïe, on sent qu'on est extraordinairement fragile.
Ah oui.
Plus peut-être que jamais. Plus que les Canadiens de 1652 quand ils vivaient sur le bord du fleuve.
Oui, on prend beaucoup de choses pour acquis.
Oui.
Puis c'est une illusion, là, dans le fond.
C'est une grande illusion.
Ouais.
En fait, plus on va être proche de la neige, plus on accepte d'être dans la neige à pied, plus on respire l'air froid, même quand il fait moins 25, plus on va accepter cette espèce de fragilité qui fait que, OK, il n'y a pas l'électricité, là, bien, on va s'organiser. Puis aussi, la solidarité. Le fait d'être seul individuellement pour la majorité dans un état pour l'instant qui est très, très confortable pour plusieurs,
ça
casse l'esprit de solidarité.
Bien, toi, tu as voyagé dans des pays là, moins développés que les nôtres. Moi, ça me fait des quelques fois que j'ai voyagé dans ces pays-là, ça m'a fasciné de voir que, comme nous autres, tout marche. Tu sais, ça me fascine. Tu prends le téléphone, ça marche. Tout fonctionne. Là. La pandémie, d'ailleurs, était toute une leçon pour ça, parce que là, il n'y a rien qui marchait. C'était comme impossible. On est habitué que tout marche.
C'est ça. Le plus bel exemple que j'ai vécu dans ma vie, moi, c'est quand j'ai voulu aller au camp de base de l'Everest. J'étais avec un guide népalais dans le Khumbu. Et c'est sûrement, dans toute ma vie de voyage, les gens, les bouddhistes népalais, là, d'origine tibétaine, qui m'ont semblé les plus sereins, malgré une extrême pauvreté, mais pas de misère. Et une énorme solidarité où les gens du Khumbu vivent en étant guides, mais dans les petites auberges le soir, la joie qui régnait là entre tout le monde, les personnes âgées comme les petits-enfants, comme les femmes enceintes, comme les touristes, j'ai jamais vécu ça à nouveau. Faut faire attention à ce que je vais dire, là. Il faut, chez nous, à ce moment-ci, en 2023, le simple fait d'aller en forêt, faire une excursion de 6 heures pour aller écrire, mettons, à moins 20, nous remet en contact obligatoire avec l'essence de ce qu'on est. C'est pas nécessaire de geler pendant 4 jours puis de mourir gelé d'un banc de neige, mais si on vit pas ça, si on n'accepte pas cette difficulté, le danger, c'est qu'on oublie que la joie d'être comme humain dépend de la solidarité, dépend de quelqu'un qui va nous aider, quelqu'un qui n'a pas oublié de l'eau, quelqu'un qui a un petit brûleur qui dit « Hey, on se fait-tu un thé? » C'est comme ça que ça se passe dans les pays plus pauvres. C'est que oser dire que la pauvreté est nécessaire pour retrouver l'humilité, je pense qu'il faut viser une réelle pauvreté, entre guillemets. Vous me suivez, je suis pas en train de dire là, ben là, on revient comme en 1732, mais il y a des limites à être dans un moment où on tape à coups de pied sur tout ce qui est nature, en fait. Puis aussi, ben, je le dis dans mon article, là, un des problèmes, c'est cette espèce de déité humaine. Qu'on se prenne pour des dieux depuis l'annonce de la mort de Dieu par Nietzsche, ça, c'est problématique. C'est d'un orgueil démesuré. Le simple fait d'être creux dans la toundra. Moi, j'ai fait une expédition en skidoo. J'ai voulu faire le tour du Québec, puis on s'est planté entre Coudjoie et Shefferville pendant 10 jours, moi puis un de mes grands amis. Là. Quel rapport d'humilité, parce qu'on aurait pu mourir. Puis on n'est pas mort, parce qu'on a trouvé de l'essence pour revenir à Coudjoie en skidoo. Mais quel immense souvenir, parce que tu peux pas faire autrement que de rester humble face à cette nature puissante qui est là. Puis ce que j'aime dire aussi, je finirai là-dessus, la nature nous en veut pas. La nature est ni bien ni mal. On est dans une zone hors du bien et du mal, telle que les humains la conçoivent dans leur psyché. C'est que si le bien et le mal existent vraiment entre les humains et dans la psyché humaine, la nature est au-delà du bien et du mal. C'est chez Nietzsche, c'est par-delà le bien et le mal. Ça, c'est fascinant de vivre ça quand on est en expédition dans les grandes montagnes à 5000 mètres ou en canot.
Mais même, je pense, pour les Autochtones qui vivent, pour eux autres, la nature est bienveillante. Puis il y avait une anecdote de taureau. Il aimait marcher en forêt, mais là, il avait décidé de faire une longue marche en forêt dans le Maine. Fait que là, il dit, je vais me faire accompagner avec un guide indien. Puis là, bien, c'était dur. Le taureau était très endurci. Il marchait 4 heures dans le bois par jour. Fait que c'était quelqu'un qui n'était pas facile à suivre dans le bois. Mais là, il dit, je marchais dans le bois avec l'Indien. Je trouvais ça dur. J'avais de la misère à le suivre. Ça devait être quelque chose. Et le soir, il était en train de faire un feu. Puis là, taureau, il dit à son guide, ouais, ben ça va faire du bien d'être rendu chez nous à soir. Mais l'Indien, il dit, je comprends pas. Moi, je suis déjà chez nous.
Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, j'ai eu la chance de passer toute ma vie médicale avec des Inuits sur la côte nord, des Cris à Abbey James, puis des Inuits qui ne sont pas d'origine amérindienne. Là, c'est un autre groupe asiatique d'origine. Et ce qui est fondamental, c'est ce que tu viens de dire. Dans le monde autochtone nord-côtier ou à l'Abbey James, encore maintenant, ce qui est foncier, c'est cette non-possession du territoire. Évidemment, là, le Nitassinan, plus que jamais avec la parole autochtonienne, là, il y a des Inuits qui habitent le Nitassinan, mais il y a aussi des Canadiens, là, des Newfies, là, des Newfoundlanders qui vivent sur la basse côte nord. Mais foncièrement, ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est quand tu es dans une cabane sur le bord d'un lac au nord de Havre-Saint-Pierre, comme Inu, tu es chez toi. Quand tu t'en vas de là, c'est plus chez toi, c'est à tout le monde. Le territoire est... L'esprit est extraordinairement socialiste dans le monde autochtone. Les choses changent beaucoup, là, mais quelque part, c'est fascinant d'être toujours chez soi dans un territoire qui appartient à la nature et à soi-même, mais pas une compagnie, pas un individu. Puis il y a des Inuits, il y a des Cris à l'Abbé James qui se bâtissent des petites cabanes à côté de la cabane de leur grand-père qui est dans une autre baie. Mais quand moi, je vais là pêcher le doré, ben, il n'y a pas un Cri qui me dit « va-t'en chez vous ». On est tous chez nous dans un pays qu'on aime. Et ça, c'est une différence majeure avec la façon capitaliste ou mercantile de dire « je l'ai acheté, c'est à moi, il y a une pancarte, c'est privé ». Le nom privé de notre pays nordique, c'est 75% du territoire, là, de la côte nord, du pays Cri, la baie James, pied du Grand Nord, c'est non privé. C'est un pays qui appartient au pays. Je dis ça. Et les humains, bon, ben, pactisent avec ces forces-là. Puis j'oserais dire tantôt ce que tu as dit. Moi, je pense sérieusement que la nature n'est pas bienveillante. La nature est. La bienveillance vient de notre rapport souhaité avec cette nature-là. On souhaite qu'elle soit bienveillante pour nous. Mais il faut cesser de considérer que la nature nous aime. La nature est. Elle nous aime pas, puis elle nous haït pas. Elle est là. C'est nous qui provoquons cette nature-là pour faire en sorte que ça soit détestable ou aimable. Mais quand on est en nature, l'été, puis ça semble être un paradis, puis il y a des oiseaux, bien, il faut jamais oublier que s'il y a 6 mouches noires puis 4 maringouins, bien, il y a un oiseau qui les bouffe. Puis là, il y a une espèce de... Il y a un vautour. Toute la nature étant toujours en état de combat pour sa survie, et ça fait partie de la beauté. Mais je veux dire, quand tu es une grenouille et tu avales une mouche, est-ce que c'est par malveillance?
Non, mais combien d'histoires qu'on a, par exemple, de dauphins qui ont sauvé des gens de la noyade, ou même j'ai vu, il y avait une photo, c'était fascinant, c'était cet été, je pense, un grizzly qui a sauvé un bébé. Il tenait le bébé, là, puis... par la couche, là, pour pas y faire mal.
Oui, oui. En même temps, là, c'est compliqué de ce dont je parle, mais évidemment, de considérer que le monde animal, celui qu'on côtoie, là, moi, que j'ai vu des 35 fois des jours noirs dans ma vie, peut accepter de nous accompagner sans toujours vouloir nécessairement nous bouffer. Ça, c'est vrai. Même chose pour les loups. Puis s'il y a une bête qui est brillante en forêt, c'est bien le loup. Le loup.
Il est pas méchant, là.
Grosso modo, en général, ces animaux-là sont pas méchants. Mais en même temps, de temps en temps, il y a des moments de bienveillance hallucinante, là, un dauphin qui sauve un enfant,
des loups aussi.
Mais grosso modo, il ne faut pas oublier que c'est les humains avec leur psyché si complexe, à cause de notre fonction pensante, là, on est les sapiens, là, qui augmentent l'intensité de ce qui peut être considéré comme bien ou mal. Ma conviction profonde, moi, c'est quand une rivière donne un coup d'eau, puis que là, la cabane qui était sur le bord est jetée à terre, c'est pas parce que la rivière a voulu être malveillante. C'est parce que quelque part, ainsi va la vie. Les Inuits utilisent un terme extraordinaire qui s'appelle Ayurnamat. Ainsi va la vie. Cette acceptation des forces de la nature oblige à une humilité que les humains contemporains de notre monde semblent avoir oubliée.
Mais c'est les stoïciens qui disaient ça aussi.
Tout à fait, tout à fait. C'est certain que...
Il faut que t'aimes le cosmos, puis t'aimes tout ce qui t'arrive.
Exactement. Il faut aimer le cosmos, puis oser dire qu'il faut aimer tout ce qui t'arrive, ça veut dire qu'il faut vivre, il faut aimer la vie, puis lorsqu'on est à 5000 mètres, puis que tout à coup on s'est cassé deux jambes, il faut aimer la mort. Je caricature en apparence, mais les êtres qui meurent en aimant la vie acceptent la mort. J'ai vu ça parfois dans le Grand Nord, j'ai vu fois en expédition. Dans notre société, on sent qu'on n'est plus là. Il y a un trouble profond vis-à-vis de cet état de nature qui nous confronte à la mort. Je ne suis pas en train de dire « vive la mort », mais...
Mais c'est ça, les stoïciens.
Ouais, c'est certain...
Les épicuriens aussi disaient ouais. « la mort, c'est l'enseignant... »
Tout à fait. C'est certain qu'à ce moment-ci, on a besoin de retomber, de retrouver la littérature grecque antique, stoïcienne ou épicurienne, plus que jamais. Les présocratiques font partie des lectures qui me semblent nécessaires si on veut reprendre pied dans l'amour de la nature.
Écoute, j'ai le goût de prendre une petite pause musicale juste pour dire qu'on reprend notre souffle, puis après ça, ça va être le mot de la fin. Là.
OK.
Tu penses un peu pour le mot de la fin.
Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau. Et le chêne, droit debout, semble être au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups. Car c'est sa fatalité, toujours retomber, tomber. Tomber pour se relever, retomber. Tomber pour se relever, même si le chêne est géant. Il fendra dans l'ouragan, moi roseau par mauvais temps. Je danse avec le vent. Sage qui ne crée pas les orages. Il sait que l'ouragan ne se pointe pas souvent. Et il regarde de haut son pauvre ami le roseau qui se bat d'arrache-pied pour se relever. Toujours se relever pour tomber comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est balotté par le vent. Moi chaîne par mauvais temps, je n'expose qu'un plan. Cette histoire banale que des individus et différents points de vue. Pour se consoler un brin, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, tomber, tomber et nous relever. Retomber, tomber et nous relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes qui par instinct de survie confortent nos vies.
Alors, c'était les cow-boys fringants, le chêne et le roseau. Une belle image, le roseau qui ploie, qui est moins solide que le chêne, mais dans le fond, c'est sa souplesse qui l'aide à passer au travers de la tempête. Alors, il nous reste 2 minutes pour compléter notre discussion. Est-ce que tu as quelque chose en tête pour notre conclusion de notre discussion aujourd'hui?
Bien, je dirais, moi, que l'urgence actuelle, si je me fie à mes étudiants qui ont 20 ans, au Québec, pour parler de mon pays, là, en 2023, c'est ce retour obligatoire aux forces de la nature, mais sauvage. C'est pas nécessaire que tout le monde parte en ski de fond pour faire 3 jours d'expédition, mais il faut accepter de sortir dehors, même quand il fait moins 25, même quand il pleut à verse, pour apprécier la valeur de la pluie, pour apprécier la valeur du vol d'un goéland si on est sur le bord du fleuve. Si les humains ne se remettent pas en contact intime avec les forces de la nature, que ce soit la terre, les eaux, le ciel, les animaux sauvages, pas seulement les animaux domestiques, si on n'accepte pas ça, cet éloignement fait en sorte que plus que jamais, les humains, me semble-t-il, puis je me dissocie pas de ça, c'est comme si on est les nouveaux dieux de la planète et que finalement, c'est nous qui allons décider du sort de la planète. Je nie pas bien des qualités à cette préoccupation environnementale actuelle, mais c'est pas sur un mode orgueilleux qu'il faut que ça se passe, c'est sur un mode d'humilité. Et plus on va être proche des forces de la nature, plus on va aimer, mais à en pleurer, que des jets bleus viennent dans une mangeoire l'hiver, plus on va faire en sorte que les pesticides arrêtent de détruire les jets bleus ou les oiseaux. En fait, on sent que la préoccupation environnementale doit être reprise par les individus et que là, il faut refuser ce qui est imposé par les forces capitalistes outrancières. Le capitalisme est une manière de vivre que ses qualités. Est-ce qu'il faudrait revenir au communisme soviétique? Probablement pas. Sûrement pas. Mais il y a des limites à ce que tout soit fait en fonction du profit. Puis le mot décroissance est un mot qui ne plaît pas à l'esprit humain. Mm. C'est pas la décroissance qu'il faut dire. Il faut dire l'humilité. Cet amour, mais...
Simplicité.
L'amour simpliste ou l'amour dans la simplicité, ça veut dire qu'on accepte de s'asseoir pour que tout à coup, vienne se poser sur notre main une citelle à poitrine rousse.
Même les goélands, c'est des mal-aimés. C'est tellement une erreur. C'est des animaux fabuleux qu'on voit. Moi, j'aime observer les goélands voler. C'est tellement beau à voir.
Oui, puis le cri des goélands est fondamental lorsqu'on est près de la mer.
Puis comment c'est dur, la vie. Ça doit être dur, la vie de goéland. Eux autres, là, il faut qu'ils survivent les froids, s'alimenter, tout ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les goélands.
Il faut avoir du respect pour tous les êtres vivants parce que le combat pour leur survie est majeur tout le temps. Tout le temps. Mais c'est vrai aussi pour les humains. Mais il faut dire que grâce à la technoscience, indubitablement, il y a eu quand même une montée exponentielle. Les humains ont réussi ce que peu d'espèces ont réussi. On est passé en 1950 de 3 milliards d'habitants. Là, on est 8 milliards. Cette surpopulation est pas banal.
Mais là, malheureusement, notre émission est terminée. Merci beaucoup, Jean. Dernière petite chose, le film L'océan vu du cœur est toujours en salle. J'ai vérifié, il est au quartier. Puis justement, il y a des beaux témoignages par rapport aux animaux, des mal-aimés. Il y a une spécialiste des requins qui nous dit comment est-ce que on a une vision distorsionnée de qu'est-ce que c'est un requin. Et en tout cas, je le vous recommande d'aller voir ce film-là, L'océan vu du cœur. Alors, bonne semaine. Merci beaucoup, Jean.
Merci beaucoup.
Alors, bonne semaine, tout le monde.
3 à la vie. Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la non-discrimination. Le droit à l'éducation.